remarques à faire ou peut-être pas des conférences.
C'est vrai que je suis médecin résistant et en voyant tous les milliards qui ont été dépensés pour les vaccins qui de toute façon n'ont pas marché, alors que c'est effectivement dans les mains d'une personne qui veut se représenter, ça me fait peur, parce que tout ce budget, parce que la France dit on a dépensé tant pour la santé, non, on a dépensé tant pour les vaccins, et maintenant on a tous les effets secondaires des vaccins chez des jeunes qui n'avaient rien demandé et qui n'avaient pas de risque de mourir. Je me dis, c'est une personne qui n'est pas élue et qui a décidé ça, enfin avec Macron, mais ils sont complètement sous l'emprise des Américains. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que l'Amérique veut quand même affaiblir l'Europe et qu'on est un peu le vassal de l'Amérique. Et que beaucoup de décisions sont prises comme ça, par en dessous et sans, comme vous dites, sans parlement.
Élection européenne. J'interpelle particulièrement Mme Bergia, qui a souligné le danger le problème de la dispersion des voix attendues en France. Mais cependant, j'ai toujours contesté l'idée, personnellement, j'ai contesté l'idée d'une liste commune de la gauche, par exemple, qui pour moi serait tromper l'électeur, puisqu'au final, les élus de chaque parti rejoindraient des groupes différents au Parlement. Alors, cette idée de liste commune, ça me paraît biaisé. J'aimerais bien avoir votre avis sur cette question. Alors,
je ne vais pas me prononcer là-dessus, parce que je sortirai de mon rôle de vice-présidente de la LDH. Je ferai simplement un petit calcul. En réalité, il y aura plus de sièges sans une liste commune qu'avec des listes communes. Enfin, moi, je suis persuadée de ça. Par contre, il y a une liste commune pour laquelle je suis favorable, au moins partiellement, c'est des listes européennes, de vraies listes européennes. Parce que ça, c'est une proposition qu'a fait le Parlement européen, d'ailleurs, pendant que j'y siégeais, que j'ai soutenu. Parce que ça, c'est une façon de visibiliser la question européenne, qu'il y ait des députés qui soient élus, non pas de tel ou tel pays, mais... Alors, l'idéal, ça serait que tout le monde soit élu comme ça. Mais je pense que pour faire avancer l'idée, c'est très bien de le faire. L'idée, c'était de le faire sur une centaine de parlementaires. Je pense que c'est une très bonne idée de faire avancer les choses. Après, dans la pratique, il y a toujours des parlementaires qui sont élus sur une liste et qui vont siéger ailleurs.
Ça n'a pas de sens d'élire des parlementaires s'il n'y a pas de parti politique.
Il n'y a
pas de parti européen, c'est de la foutaise. Il n'y a que des groupes politiques au sein du Parlement.
Il y a un parti socialiste européen, il y a un parti populaire européen.
C'est une étiquette, ce sont des groupements de partis. Ce ne sont pas des partis.
Ah ben oui, mais ça c'est autre chose. Non, ils siègent, non, c'est pas vrai. Non,
et les structures existent. Il n'y a pas de programme européen.
Oui, mais c'est tout un sujet. Là,
il n'y a même pas de base légale pour créer un parti européen. Mais... Vous avez peut-être entendu parler de Volt. C'est un mouvement qui s'est créé, qui voulait présenter des partis dans tous les États européens. Et ils n'ont pas pu le faire parce qu'il n'y a pas de base légale pour ça. On ne peut créer des partis qu'au niveau des États.
Pour l'essentiel, les partis européens, ils ont leur siège à Bruxelles. Mais...
Non, Parti populaire européen, c'est un groupement de 6 partis démocrates chrétiens et de 8 partis conservateurs. Mais ce n'est pas un parti, c'est juste un conglomérat. Et pour les partis, le Parti socialiste, le Parti Renew libéral et les Verts, c'est la même chose.
Il n'existe pas. Le Parti socialiste européen existe un tout petit peu plus, mais y compris qu'il a eu pendant des années un vrai programme. Mais que
ils ont la personnalité juridique européenne.
Oui.
Ils ont la personnalité juridique européenne. Le problème, ce n'est pas un problème institutionnel, c'est un problème de fonctionnement, de visibilité.
C'est une question d'organisation.
Le fait que les partis politiques européens soient un regroupement des partis nationaux, ce n'est pas conceptuellement faux. sauf que ça ne fonctionne pas bien. Sauf que comme vous dites, ils adoptent un manifeste en amont des élections européennes, qui est un peu le petit dénominateur commun de tous les partis nationaux membres du Parti européen. Mais personne ne respecte ce manifeste par la suite. Et personne n'en parle surtout. Donc le problème, il est plutôt dans le fonctionnement que dans le conceptuel, à mon avis.
C'est votre avis, mais il me consulte par exemple en matière de défense. Mais ils sont d'accord sur rien entre eux.
Ah, bah oui, ça c'est autre chose.
Donc, c'était un parti, ce seraient les membres qui définiraient le programme et qui adopteraient le programme. Ça n'existe pas.
Sur la question de défense, il y a des débats dans tous les partis politiques, et notamment sur la question de la défense européenne. Mais enfin, moi, mon expérience au Parlement européen, et je l'ai vécu, et j'ai travaillé avec des gens de tous les groupes politiques, à l'exception de l'extrême droite, parce que pendant la période dans laquelle j'ai siégé, ils ne travaillaient pas, donc ce n'était pas très difficile de ne pas travailler avec eux. Mais il y a une vraie vision européenne d'un certain nombre de gens. Et plus, moi j'ai toujours entendu dire, y compris par des gens qui étaient au départ, qui n'étaient pas très pro-européens, la façon de travailler du Parlement européen, ça rend plus européen. Parce qu'on travaille d'abord sur les questions européennes. Les décisions, on les prend en travaillant avec des parlementaires de tous les groupes politiques et de tous les pays. Et il y a un vrai fonctionnement démocratique à l'intérieur du Parlement européen de ce point de vue-là. Et moi, je dis, je répète, y compris parce que j'ai travaillé à l'Assemblée nationale, donc je sais à peu près de quoi je parle, le fonctionnement du Parlement européen est bien plus démocratique que le... Alors, c'est pas difficile, hein, parce que le modèle... mais que le Parlement français, que l'Assemblée nationale française. Quand on a un texte législatif au Parlement européen, chaque groupe politique désigne un responsable pour assurer le suivi de ce texte. Et donc, il peut être de n'importe quel État européen. Donc, forcément, on travaille avec des gens de tous les pays. Et pour arriver à une vision commune du Parlement européen, on est bien obligé d'avoir une vision politique européenne. Après, au moment du vote final dans l'Assemblée, il y en a qui récupèrent leurs billes, et dans tous les groupes politiques, il n'y a plus un groupe politique en Europe aujourd'hui, tant au niveau national qu'au niveau européen, dans lequel on va demander de la discipline de vote quand même. On marcherait un peu sur la tête quand même. Mais majoritairement, les groupes politiques qui votent en bloc politiquement, parce qu'ils font confiance à la personne qui a été nommée et qui a suivi le texte dans toutes ses étapes. Donc il y a un vrai fonctionnement européen. C'est pour ça que c'est un appui, le Parlement européen. Moi, j'ai toujours été européenne. Bien que j'ai siégé à la gauche européenne, j'ai toujours été européenne convaincue. Et ce n'est pas mon expérience de 10 ans au Parlement européen qui m'a fait changer d'avis, bien au contraire. Je crois qu'il y a vraiment des choses sur lesquelles il faut s'appuyer. Et les groupes politiques au Parlement européen sont effectivement des... Il vaut mieux d'ailleurs, compte tenu des problèmes, de la façon dont fonctionnent les partis politiques européens, il vaudrait mieux que ça s'appuie sur les groupes politiques qui ont un fonctionnement bien plus européen que les partis politiques eux-mêmes. Quand je critiquais le fait que le PPE n'ait pas été capable de
virer Orban.
Oui, mais je ne voulais pas dire virer, justement.
D'exclure
Orban, mais les socialistes européens ont fait la même chose avec Fico. Fico a même été président du Parti socialiste européen. Fico, il est slovaque, socialiste, soi-disant socialiste slovaque, et là, ils viennent de l'exclure, et il va aller siéger dans le fameux groupe conservateur qui ramasse tout et n'importe quoi. Donc il y a C'est les fonctionnements nationaux qui posent problème par rapport à la question européenne.
Parti européen, il faut savoir que le Parti des Verts européens existe puisqu'il s'est réuni début février à Lyon.
Avec des
délégations de tous les pays.
C'est pas l'existence, c'est le fonctionnement qui met en cause.
L'autre problème fondamental qui a été soulevé par la Cour constitutionnelle allemande, c'est de dire, mais un député allemand, par exemple, ou français, il représente environ 800 000 citoyens. Et un député luxembourgeois ou maltais, il représente 80 000 personnes. Et donc, on ne respecte pas du tout l'égalité des citoyens dans le cadre de l'élection européenne.
Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que c'est corrigé en permanence, et maintenant... Alors, c'est vrai pour les tout petits pays, hein, les cinq plus petits pays, parce qu'ils sont effectivement très petits, mais tous les autres pays, les parlementaires sont à la proportionnelle. Là, on récupère, je ne sais plus combien, il y a de nouveaux députés, justement, pour, et de plus en plus, moi, je l'ai vu se rectifier, au fur et à mesure.
C'est pas vrai pour les tout petits pays, et c'est pas vrai pour les gros pays.
Mais parce que si on fait une proportionnelle, soit alors on a, je ne sais plus combien il y a d'habitants à Malte, mais soit on met
250 000,
soit on met un député pour 100 000, à peu près 100 000 habitants, comme ça se passe à peu près en France. Et à ce moment-là, la France et l'Allemagne vont avoir 500 députés.
Oui. Donc, mais alors, il y a une raison historique à ça. C'est que dès la CECA, pas lors de la signature du traité de Paris, mais dès les débuts du fonctionnement de la CECA, le Luxembourg a demandé s'est plaint de ne pas avoir assez de députés en comparaison avec la France ou l'Allemagne, qui n'était pas l'Allemagne d'aujourd'hui, qui en avait donc moins qu'en France. Mais et tout ce qu'on a trouvé, c'est de tordre un peu la proportionnalité. Si, parce que on a voulu faire avec une seule chambre la représentation des citoyens et des États. Et c'est pour ça qu'il faut deux chambres. Il faut séparer les deux fonctions. Mais bien sûr que si.
Là, vous n'allez pas faire des députés.
Il faut une chambre qui représente les États.
Vous pouvez le faire, mais en France, on a le système qui est tordu de la même façon. Un député ou un sénateur, enfin, il ne peut pas y avoir dans chaque département moins de deux députés ou de deux sénateurs. Et par rapport à des départements ruraux...
Si maintenant, la Creuse, il y a un député seulement. La Creuse, il n'y en a qu'une. Si.
Ça m'a échappé, mais pendant très longtemps, en tout cas, c'était comme ça.
Oui, c'était le cas.
Parce que les petits départements ruraux, parce que normalement, c'est un député pour 100 000 habitants. C'est ça, la règle, à peu près, en France.
Les députés européens devraient être élus... dans les États membres, parce que ce sont finalement des circonscriptions, proportionnellement à la population, alors que les États devraient être représentés par le même nombre de représentants à la Chambre haute. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qu'on reconnaît quand on... Le Conseil des ministres, enfin le Conseil de l'Union européenne, c'est bien comme ça que ça se passe. Et quand on accorde la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, on donne les mêmes tâches à Malte qu'à l'Allemagne. Et l'Allemagne a un personnel politique infiniment plus nombreux. Et donc on connaît bien que quand il s'agit de représenter les États, il faut que ce soit égalitaire, mais les citoyens...
J'attends avec beaucoup d'impatience le moment où ça sera un Maltais qui sera président de la Commission européenne ou du Conseil européen.
Bon, Maltais, est-ce qu'il est président du Parlement européen?
Oui,
aujourd'hui.
Au Parlement, parce qu'il y a un fonctionnement démocratique au Parlement européen.
Mais il y a eu un semestre...
J'attends avec impatience que les États désignent un Maltais,
il y a eu plusieurs présidents... de la Commission européenne qui était luxembourgeois, que ce soit Gaston Thon, que ce soit Santerre, que ce soit Juncker, il représente 600 000 personnes.
Il y a eu des présidences semestrielles du Conseil de l'Union européenne qui ont été
c'est un tour de rôle.
Oui, mais justement, c'est égalitaire. Donc on peut bien avoir un fonctionnement égalitaire dans un Sénat. Sauf que ça ne représente pas les citoyens.
Il y a la théorie, il y a les idées que vous défendez et la réalité de la pratique aujourd'hui. Moi, je suis assez pragmatique.
Oui, mais le problème du pragmatisme, c'est que depuis 70 ans, on nous parle de défense européenne et elle n'existe pas. Et que l'Europe est incapable de nous protéger. Ça, c'est la réalité. Et c'est la conclusion du pragmatisme que vous promouvez.
Ah non, attendez. Soyez...
Oui.
Évitez de monter de ton et sachez respecter ma parole.
Je constate le fait qu'il n'y a pas de défense européenne.
D'accord. Moi, je ne vous parle pas de vos théories. Je vous parle de la réalité d'aujourd'hui et des rapports de force aujourd'hui.
La réalité, c'est qu'on est incapable de fournir une mission aux 155
mètres. La réalité, demain, ça ne sera sûrement pas la construction d'une défense européenne. La seule chose qu'on pourra avoir, c'est ce qu'on a exactement avec l'agence Frontex aujourd'hui, Hein. Tout le monde fixe les yeux sur l'agence Frontex comme si c'était l'agence Frontex qui définissait les politiques de l'Union européenne. Or, l'agence Frontex, elle est sous le contrôle des États membres. Elle n'est pas sous le contrôle de l'Union européenne. Et il n'y a pas... Les gardes-frontières, c'est des gardes-frontières nationaux. Ce ne sont pas les quelques milliers de gardes-frontières de Frontex qui vont changer les choses. Et je vous prends le pari.
C'est 10 000 personnes pour garder les frontières de l'Union européenne.
C'est ce que je vous dis.
Ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens.
Mais c'est pour ça qu'il nous faut un État européen et donc une constitution.
Oui, bah vous pouvez toujours... Je suis peut-être pragmatique et réaliste, mais moi, je ne vis pas dans un rêve, je vis dans le monde d'aujourd'hui.
Le monde d'aujourd'hui, c'est que on a une Europe qui est impuissante.
Mais comment on fait pour changer?
Eh ben voilà.
D'autres questions?
Pourquoi pas, oui. Un service européen militaire. Alors, je ne sais pas comment ça se
dit. Il y en a des petits bouts.
Il y a des petits bouts. Bon, ce qu'on voit actuellement, c'est avec ce qui se passe, les armées de métier, donc il y a un certain nombre de choses communes qui se font, c'est pas nouveau. Il y a toujours eu des choses comme ça. Mais depuis 70 ans, comme il a été dit tout à l'heure, on a vécu en dehors de. Sans le problème de la guerre en Europe. Et les générations s'y sont habituées. Avec aujourd'hui un confort qui va, qui fait qu'on devrait pas. Et il y a de même qu'il y a des échanges un peu entre les universités. Je pense qu'il y a des idées comme ça aussi d'avoir des échanges ou des sortes de services militaires, c'est peut-être fort, c'est peut-être trop fort, mais de faire mettre ensemble des jeunes de différents pays européens pour être formés dans le cadre de l'Europe, avec l'idée de l'Europe, pour à terme qu'il y ait une reconnaissance dans les têtes de cette supernation à défendre qui est l'Europe. Qui actuellement d'ailleurs est menacé. Je me disais, c'est les Russes qui feront l'Europe, et ça le fait un petit peu quand même.
On n'a pas entendu les offensives de Poutine pour penser à cela. En 2005, quand Javier Solana était représentant et chargé des questions de relations internationales, j'y ai contribué parce que j'étais directeur de l'école royale militaire belge à l'époque. On a créé le Collège européen de sécurité et de défense, qui forme des militaires, des diplomates, des fonctionnaires, mais aussi des citoyens intéressés par les questions de sécurité et de défense européenne, par le biais d'échanges entre collèges de défense de différents pays d'Europe. En 2008, j'avais élaboré pour le gouvernement belge un programme d'échange de jeunes officiers en formation. Il y a eu un changement de gouvernement en Belgique et donc j'ai pu transférer ce dossier à la présidence française de l'Union européenne, la présidence tournante, qui était assurée par, à l'époque, M. Sarkozy. Et il a fait adopter ce programme en décembre 2008. Mais vous n'avez sans doute pas entendu parler, parce que, comme souvent chez les politiques, ils se contentent de faire passer un dossier, et puis ils sont très contents d'avoir un communiqué de presse, et après ils ne font plus rien, parce qu'ils confondent gouverner et communiquer. Aujourd'hui, malheureusement, les politiques sont convaincus qu'il suffit de communiquer et qu'il ne faut plus agir. Pour moi, la politique, c'est répondre réellement aux besoins. Et c'est très différent de faire juste de la com.
Heureux qui communique. Alors, qui est-ce qui veut prendre la parole? Oui, monsieur.
Je suis un peu navré que ça pousse à monter autour de ce qui marche pas en Europe. Bon, il y a 67% des Européens qui sont favorables à l'Europe. Est-ce que c'est parce qu'on a fait l'Eurasie? Est-ce que c'est parce qu'on a fait beaucoup de choses en commun? On a cette adhésion contraire à tout ce qu'on vient de se raconter. On a se lamenter sur ce qui ne marche pas. Et n'y a-t-il pas un moyen, au moment des élections européennes, d'avoir par exemple un label Europe auquel on demande aux candidats aux élections d'adhérer et que l'on puisse le limiter à 3-4 valeurs essentielles que nous partageons. Quelque chose de tout simple, aussi simple qu'Erasmus. Mm-hmm. Si on avait quelque chose comme ça, je pense que les 67% d'Européens pourraient se manifester beaucoup mieux.
C'est ce que nous espérons avec François et les représentants d'une dizaine d'associations européennes. Nous avons en avril 2023 rédigé un manifeste en vue des élections européennes et nous avons sollicité les partis politiques des États membres en disant « Est-ce que vous voulez bien vous joindre à notre mouvement pour aller vers une Europe fédérale ?» Je peux vous dire que la réponse a été extrêmement limitée. Par contre, si on considère les eurobaromètres, vous avez raison, depuis les années 1950, une très très large majorité d'Européens dans tous les pays, où ça va entre 65 et 85%, sont en faveur d'une Europe plus unie, plus efficace, et sont en faveur d'une défense européenne. Mais les politiques ne suivent pas. Les politiques restent pragmatiques et accrochées à des modes de fonctionnement qui ont prouvé qu'ils ne fonctionnaient pas. Que ce soit pour la migration, que ce soit pour le sanitaire, que ce soit pour le monétaire, que ce soit pour le financier, chaque fois qu'il y a une crise, ils sont incapables de résoudre le problème.
Je voudrais vous poser une question. C'est vrai ce que vous dites, je suis d'accord avec vous. Mais alors pourquoi nous lamentons-nous devant la montée de l'extrême droite ? Ils n'auront jamais la majorité absolue en Europe.
Je pense par rapport à ça. Je trouve intéressant quand vous regardez l'évolution des partis d'extrême droite depuis 15 ans. Quand vous regardez l'évolution des partis d'extrême droite depuis 15 ans, qui dit aujourd'hui dans son programme qu'il est contre l'Europe ?
Marine Le Pen a un peu changé d'avis à ce sujet.
Oui, bien sûr. Et Mélanie a fait pareil. Et...
Oui, ils disent franchement dans leur programme.
Et Orban hurle, fait des campagnes d'information de com dans son pays en permanence, mais il ne fait rien pour quitter l'Union européenne.
Hein. Non, il engrange les milliards.
Il engrange les milliards.
Oui, tout à fait.
Donc, après, moi, je pense que vous avez raison sur la campagne des européennes. Moi, j'ai cité 2-3-4 exemples qui sont au contraire des bases pour aller plus loin. Hein, parce que je crois qu'effectivement, c'est des initiatives qu'il faut saisir. C'est en ça, cher monsieur, que je suis pragmatique.
Je le suis aussi. Hein. Donc, le programme Erasmus, je pense, c'est le programme le plus...
Il y a des belles réussites dans l'Union européenne. Erasmus, c'est une des plus belles réussites qui soit. La libre circulation à l'intérieur des pays de l'Union européenne, c'est une pure merveille. Qui, aujourd'hui, parmi les Européens, voudrait qu'on rétablisse les frontières ? Il n'y a personne.
La ma génération, elle est
connue. Est-ce que vous pouvez redire la phrase que vous venez de... Parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris. Qui demande qu'on rétablisse les frontières ?
Oui.
Bah, Marine Le Pen.
Oui, mais bon, non, je pensais aux Européens. Mmh. Aux Européens. Non, les citoyens européens. Et même Marine Le Pen. Mmh.
On a cité comme succès l'Erasmus, et c'est vrai, c'est probablement un des plus beaux programmes parce qu'il s'adresse à la jeunesse. L'Erasmus, il s'est fait en dehors des traités européens parce que les traités prévoient que la culture, c'est purement national. Et il s'est fait en détournant des crédits budgétaires prévus pour améliorer l'emploi, et on en a fait ce programme d'échange interuniversitaire. En ce qui me concerne, j'ai organisé l'extension d'Erasmus, qui au départ était purement civile, mais j'ai fait en sorte que les Erasmus existent aussi entre les écoles militaires. Or, les écoles militaires, navales et de l'air, c'est quand même l'expression même du nationalisme. Eh bien, ça a été un succès immédiat, parce que tous les militaires européens sont convaincus qu'il faudra absolument une défense européenne, parce que nous sommes beaucoup plus conscients que les citoyens lambda, qui sont moins au contact de ces problèmes géopolitiques. Nous sommes parfaitement conscients que nous sommes incapables d'assurer la sécurité de l'Europe, mais que s'il y avait une Europe unie, alors nous pourrions effectivement faire le job. Et c'est pour...
Permettez-moi une boutade. J'attends avec impatience l'Erasmus des boulangers.
Ça existe déjà. Erasmus, ça concerne les artisans, les étudiants, les professeurs. Ça a été totalement élargi. C'est pour ce que c'est.
Ça n'existait pas au début, mais ça s'est élargi. Là,
ça a été élargi. J'étais encore députée moi, quand ça a été élargi. Donc. Ça a été élargi hors Union européenne, d'ailleurs, ce qu'on appelle
Erasmus+,
c'est l'extension, j'étais en train de chercher, c'est l'extension en dehors des milieux éducation, parce que ça existait déjà pour les professeurs. Donc Erasmus+, c'est une extension aux apprentis et même aux personnes plus âgées. Et Erasmus Mundus, là, c'est à d'autres pays du monde, avec qui l'Union européenne passe des conventions. Il y en a qui sont en Erasmus en Amérique du Sud, en Afrique, en Turquie. Pour moi, c'est vraiment... Y compris, à la LDH, je me travaille beaucoup sur les questions de tolérance. Et quand vous regardez la jeunesse d'aujourd'hui, elle est imprégnée de ça. Elle est imprégnée de ces échanges alors pas toutes, hein, malheureusement, mais très majoritairement quand même, et y compris parce qu'ils ont l'habitude et parce que c'est aussi les effets de la libération, la libre circulation des personnes. Nous, on a grandi dans un monde qui était enfermé dans les frontières, alors qu'aujourd'hui, aller dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Il y a aussi la facilitation des moyens de transport, mais c'est un autre sujet. Mais il y a des perspectives d'aller, et ça fait partie des choses qui
sont très positives. Mais par exemple, la suppression des frontières ne concerne pas ni les mouvements des militaires, des unités militaires, des matériels militaires, qui restent coincés par l'obligation d'avoir des créances diplomatiques et des choses comme ça. Et donc, en cas de menace, c'est un réel problème. Et l'OTAN a échoué depuis sa création à supprimer les frontières en Europe. L'Union européenne a repris le problème au début de la commission Juncker, et ça progresse, mais d'une manière extrêmement lente. Bon, je suis aussi un pragmatique quand il faut. Quand j'étais conseiller du ministre de la Défense, il m'a dit il faut faire quelque chose, les Français et les Allemands doivent remplacer les avions de transport Transall, nous devons remplacer les avions Hercule d'origine américaine, et j'ai mis au point et lancé le programme Airbus A400M. Mais ce programme a souffert du fait qu'il n'y a pas en Europe quelqu'un qui décide de la façon dont il faut organiser et gérer ce genre de programme multilatéral. Et donc, on arrive à la conclusion que la plupart de ces programmes multilatéraux qui ont été pensés pour aller vers plus d'Europe amènent des dépassements de budget considérables, des retards considérables, et parfois même des problèmes techniques, comme on l'a connu avec les moteurs des avions A400M, parce que l'industrie a mis 10 ans pour mettre au point ces moteurs. Donc, en Belgique, nous sommes entrés très vite, comme je l'ai dit, dans l'association Benelux, qui a un volet militaire. On a créé une coopération Benelux en matière de coopération maritime. Donc il n'y a qu'une seule amirauté pour 3 pays. C'est assez extraordinaire. Il n'y a, pour chaque spécialité, depuis les cuisiniers jusqu'aux canonniers, il n'y a qu'une école qui est soit en Belgique, soit aux Pays-Bas. Il n'y a qu'une seule chaîne logistique pour tous les types de matériaux. Il n'y a tout ce qui est moyen de communautariser a été communautarisé. Mais tous les bateaux restent nationaux. Et quand on part en opération, c'est soit une opération belge, soit une opération des Pays-Bas. Parce qu'il n'y a pas d'unité de commandement au niveau du Benelux. On n'a pas créé une fédération au niveau du Benelux. Donc on bute très vite sur les limites du système, qui sont parfois invraisemblables. À un moment donné, on a décidé de former les officiers d'état-major en commun. Eh bien, on a constaté que pour donner un cours de gestion du personnel, on ne peut pas donner le même cours aux gens, aux Néerlandais et aux Belges, parce que la législation sociale...
C'est pas les mêmes procédures.
Voilà, c'est pas la même.
Les chefs,
c'est
les militants ne se comprennent pas quand il faut aller vers une seule action. Voilà.
Et c'est ça le problème.
La dispersion...
Et la politique de défense des Pays-Bas n'est pas la même que la politique de défense de la Belgique, encore aujourd'hui.
Ce problème-là, c'est quand il y a eu les interventions au Moyen-Orient, en Syrie, etc., les différentes organisations nationales américaines ne se comprenaient pas, ils n'avaient pas les mêmes moyens, les mêmes ordres
à comprendre,
etc. Donc, l'unité, évidemment...
Voilà.
Ça facilite beaucoup de choses et ça limite les charges et les pertes de temps.
Tout à fait.
Les erreurs également.
Tout à fait. Mais je n'ai pas encore trouvé le moyen de convaincre les politiques de cette chose qui est pourtant de bon sens.
Ah non, des trois là. Des trois.
Et puis,
après, quand l'Union européenne a envie de décider vite, elle peut décider vite. Parce que quand il s'est agi d'aider les Ukrainiens et les réfugiés chrétiens, ça a mis 5 jours. Hein.
Oui. Très vite, ça, je voulais aussi citer que on a...
Donc c'est une question de volonté politique.
Tout
le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas la volonté politique.
Tout à fait.
Moi, j'étais furieuse. Alors, je vais sortir, j'enlève ma casquette LDH. La première fois que j'ai entendu Macron avec son fameux discours de la Sorbonne, où tout le monde, tous les journalistes, racontaient que Macron était un grand Européen. Alors, moi, qui connaissais un peu les questions, j'avais l'impression qu'il avait fait tous les fonds de tiroir.
C'est une tromperie.
Ah, c'était une tromperie, mais hallucinante, quoi. Ce n'était que des fonds de tiroir, quoi. Que des idées qui avaient été élaborées à droite, à gauche, par le Parlement européen, par le Conseil, par la Commission.
Mais
c'était...
Pareil avec l'UBG qui veut mettre...
Oui, ça, c'est pas tout à fait le même sujet. Mais sur cette question européenne, quand voulez-vous qu'on avance sur la question européenne quand on n'a pas un journaliste qui est capable de dire qu'il n'y avait rien de nouveau dans son discours. Rien de nouveau, quoi.
Oui, en plus, il date de 2017, si je me rappelle bien. Ouais. On est en 2024, il n'y a rien qui s'est réalisé en septembre.
Rien. Alors l'IVG, c'est un autre... Alors là, je peux remettre ma casquette. L'IVG, c'est pareil. On s'est félicité comme tout le monde, puisque, grand numéro, tous les pays à travers le monde félicitent la France d'avoir inscrit l'IVG dans la Constitution. Simplement, ce qui est inscrit dans la Constitution, c'est qu'il y a une liberté d'avortement garantie par la loi. Je vois pas ce que ça change par rapport à la réalité d'aujourd'hui.
Ouais.
Ça n'ajoute rien à la loi Veil.
Ah bah rien, non. Strictement rien. C'est vraiment, pour le coup, c'est tromperie sur toute la ligne. Là. C'est
com.
C'est de la com. C'est juste de la com. Nous, on a commencé à le dire, puis on s'est dit, on ne va pas être les seuls.
Oui, parce que ça fait un peu triste.
Non, mais en plus, c'est incompris.
On dit, non, mais...
C'est incompris. Moi, je vois, j'étais à une réunion, parce que je représente la LDH à Euromed Droit, qui est une association euro-méditerranéenne. Et mes copines tunisiennes, elles se félicitaient en disant que ça serait bien que tous les pays du monde fassent comme la France, à condition que ça soit des vrais droits, hein, parce que là, pour le moment, la France, c'est... Bon, tant mieux, hein, les gens sont contents, etc., mais la loi pourra être changée exactement de la même façon, quoi. C'est... Je déteste, moi, quand on dit des choses qui sont pas conformes à la réalité, quoi. Le cinéma, là, quand vous voyez tout le monde, le cinéma qu'ils ont fait, Place Vendôme, autour de ce truc-là, là, c'est honteux, quoi. Mais c'est un symbole.
Mais bon, en sa constitution européenne, alors, il n'y a pas la volonté politique de la part des États membres d'aller dans cette direction-là, de proposer une constituante, mais il n'y a pas non plus un mouvement citoyen.
Mais parce qu'il faut le créer.
Européen. Oui, non, mais.
Mais il faut le créer.
Alors, mais... comment le créer? Parce que.
Déjà, il faut en parler, il faut mettre des choses sur la table.
Il y a eu Pierre Calame, je pense, qui avait proposé. Notre ami Bartalet. Bernard Bartalet qui avait des idées, mais il n'en est jamais rien sorti.
Les mouvements pro-européens sont inaudibles. Donc il y a pas, on n'a pas réussi encore à créer une dynamique citoyenne qui pourrait faire pression sur les États pour organiser une constituante.
Et à mon avis, il faut le demander. Et tu dis les États ne veulent pas. Ben oui, bien sûr, aujourd'hui, pourquoi les États le voudraient ? Avec une vision à court terme, ils n'ont aucun intérêt. Quand on dit la principale réforme, c'est de supprimer la règle de l'unanimité. Non, mais on n'imagine pas une seconde que les États vont renoncer à l'unanimité. C'est absolument impensable. Donc, ce n'est pas de là qu'il faut attendre la solution.
Même quand il n'y a pas la règle de l'unanimité, ils font comme si. Comme si, c'est ce que je vous ai pas dit, mais j'avais noté
une chose à dire. Je ne sais plus en quelle année c'était. François Hollande est rentré de Bruxelles et les journalistes lui ont dit, mais. Pourquoi vous avez accepté que le Conseil européen prenne, je ne sais plus quelle décision je pourrais rechercher, c'est sûrement possible de le retrouver, mais ça m'avait frappé à l'époque. Pourquoi avez-vous voté comme les autres? Parce que vous n'étiez pas d'accord. Et il a répondu, parce que si j'avais pas voté positivement, ça n'aurait pas eu lieu. Mais quel était l'objet? S'il n'était pas d'accord, il ne fallait pas qu'il vote comme les autres.
La France a quasiment une minorité de blocage.
Hein, oui, et pourquoi ne pas l'utiliser? Et à mon avis, le salut ne peut venir que d'un groupe de parlementaires. Et évidemment, on n'aura pas d'un coup les prochains parlementaires élus qui soient tous d'accord sur ce sujet. Mais il faut au moins mettre le problème sur la table. Et tu parles d'un mouvement de citoyens, oui, certes, mais nos représentants élus peuvent aussi prendre ça en charge, aussi, enfin, peut-être même plus que nous.
Nous le faisons à titre bénévole, François se dépense en conférence, en article, etc.
Le sens de la résolution du Parlement de demander l'organisation d'une convention.
Une convention pour réformer les traités.
Mais
on en sera toujours au même point.
Même au niveau du Parlement, ils n'ont pas trouvé de majorité pour aller plus loin.
Tout à fait.
Oui. Parlement sortant. Mais c'est pour ça que c'est un combat qu'il faut commencer. Si on ne commence pas, on n'a aucun espoir que ça change jamais. Si on trouve que c'est bien.
Dans le contexte actuel, il ne faut rien attendre des États, hein, parce qu'ils sont au contraire complètement cramponnés sur leurs compétences nationales.
Et ils s'aplatissent devant les Américains pour tout sujet. Depuis septembre 2015, j'ai donné 300 conférences en français, néerlandais, anglais, allemand, depuis Moscou jusqu'aux États-Unis et dans tous les coins d'Europe. J'avais produit 150 articles, 3 bouquins, etc. J'ai parlé à plus de 10 000 personnes, mais ça ne suffit pas pour créer vraiment un mouvement de pression. Les médias sont aussi contrôlés par les gens qui pensent de la même façon depuis 70 ans, 70 ans.
Oui, bien sûr, mais comment sortir de cet immobilisme
C'est compliqué. Mais parfois, il y a des gens qui y arrivent. Rappelez-vous Mélenchon, au début, il a réussi à créer quelque chose de nouveau. Macron a réussi à créer quelque chose de nouveau. Mais le problème, c'est que c'est pour se faire élire. Et après, quand il s'agit de gouverner, ils ne savent pas le faire.
Moi, j'aurais espéré très naïvement qu'on puisse commencer à déclencher ce mouvement citoyen à l'occasion de cette campagne électorale. C'est-à-dire que aller aborder les candidats, et leur dire, mais qu'est-ce que vous pensez de cette question-là? Leur poser la question, en les empêchant de se dérober. Mais on n'a pas fait.
En général, ceux qu'on a rencontrés, en général, ils ne répondent pas. Toi, tu as rencontré Raphaël Guzman.
Oui, mais lui, il est d'accord.
Il est d'accord, mais voilà.
Alors, évidemment, on va toujours me répondre, oui, mais les politiques, ils disent ça pour être élus, puis après, ils font autre chose. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac.
C'est difficile, même les pro-européens convaincus et qui sont fédéralistes
ceux qui disent qu'ils le sont ne le sont pas.
Souvent ils disent parler du fédéralisme aujourd'hui c'est contre-productif.
C'est pour ça que j'évite de le faire. Personnellement, j'évite maintenant depuis quelque temps de le faire. Je ne parle pas de fédéralisme, parce que à partir du moment où on engage une discussion sur ce sujet,
France, parce que en France, à cause de votre histoire, vous, la plupart des Français ne comprennent pas ce que c'est que le fédéralisme. Parce que les Girondins, c'était la fédération, la commune de Paris, c'était les fédérés. Après la Deuxième Guerre mondiale, les anciens de Vichy se sont appelés fédéralistes, comme Alexandre Marc, etc. Et donc en France, on ne comprend pas très bien ce que c'est que le fédéralisme. Ailleurs, en Europe, c'est un terme qui ne pose aucun problème.
Ils sont habitués.
Surtout en Allemagne, etc. En Autriche, ils vivent le fédéralisme depuis des décennies. Ils n'ont pas de problème avec ça.
Avec ses avantages et ses inconvénients.
Oui, oui, mais aucun système n'est parfait. Hein.
Une dernière question.
Si on était sur un vrai système fédéraliste, est-ce que, je crois que c'est vous, je ne sais plus lequel d'entre vous disait ça, les compétences seraient déterminées chaque niveau.
Oui, oui, oui.
Là, avec le système aujourd'hui, on ne sait pas, parce que quand ils ont vraiment envie, au niveau européen, de faire passer quelque chose, ils s'assoient sur les traités, c'est ce que vous faites. Et quand ça les arrange... Donc c'est... Mais c'est vrai que le mot fédéralisme, en France en particulier, est très connoté. Et mal connoté.
Mais si on prend 15 minutes, je veux dire, on peut l'expliquer, les gens comprennent, et après, il n'y a pas de problème. Il faut juste trouver le moyen de le faire.
Vous l'avez dit tout à fait à la fin, ça ne fait pas forcément disparaître les entités nationales.
Mais non.
Aux États-Unis d'Amérique, on n'a pas fait supprimer New York, et le Texas et la Californie. Hein. Je veux dire, voilà.
En Allemagne non plus, en Suisse non plus.
Hein. Non, non.
Et en plus, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est pour ça que les débats sur, par exemple, tous les débats sur les accords de libre-échange avec les États-Unis étaient hallucinants, parce que la plupart des compétences qui sont dans les accords de libre-échange, c'est des compétences des États fédérés. Mmh. Et donc, on se fait des cinémas sur les accords avec les États-Unis, alors que ça concerne des... Par contre, les vrais, là où il y a des vrais problèmes, là, on fait pas, on mène pas le débat. Mm-hmm. Sur les échanges de données, on ferait mieux de regarder ça d'un peu plus près.
Par contre, quand aux États-Unis, on crée Google, on crée Apple, on crée Microsoft, alors le marché, il existe. Et chez nous, tout est encore cloisonné.
Eux, ils savent leur piquer des impôts. Voilà. Les États-Unis, les multinationales américaines, elles payent des impôts aux États-Unis. Mm-hmm. L'optimisation fiscale, il n'y a que chez nous, ça existe.
Ce qui n'empêche que les États-Unis sont très endettés, je crois.
Oui, mais c'est pas grave parce que le reste du monde.
Auprès de la Chine,
Le reste du monde pour déposer
des
fonds aux États-Unis.
Donc on est sur le système dernière dollar, question. Ils ont la planche à billets. Voilà. Donc,
Alors, une remarque.
Oui. Moi je n'arrive pas vraiment à saisir comment on peut parler de légitimité démocratique nationale avec les taux d'abstention qui sont depuis 30 ans dans une progression et avec les règles électorales, qui sont par exemple, la campagne officielle est juste symbolique avec les gagnants de parole. On fait une fiction, Moi, je ne connais pas exactement dans d'autres pays que la France, mais à mon avis, ça ne va pas être très très loin. Déjà, au niveau national, c'est une fiction, alors au niveau européen,
Vous savez, quelquefois, les choses sont mieux au niveau européen qu'au niveau national.
Au fonctionnement interne.
Même au niveau interne,
Je voudrais mieux revenir sur le mot Erasmus qui a rassemblé votre acceptation. Est-ce que c'est pas possible qu'une de nos associations se donne l'objectif de décortiquer comment Erasmus a été le succès qu'il est. Et qu'en ayant décortiqué le phénomène, on essaie d'appliquer à d'autres domaines que celui où je suis. Vous me parlez, vous allez me dire avec la défense, vous en avez fait
J'ai décortiqué le programme Erasmus pour voir si on pouvait insérer les écoles militaires belges d'abord et puis les autres dans le système Erasmus civil. C'était très compliqué parce que la Commission européenne n'aimait pas trop ce qui était militaire. Mais ça finit par se faire. Et puis on a constaté qu'il n'y a pas que des écoles militaires de niveau universitaire. Dans certains pays, il y a des écoles militaires où on ne fait que un bachelor ou voir, comme en Grande-Bretagne, on ne donne pas de formation académique du tout. Et on voulait quand même les impliquer dans le système. Et c'est pour ça qu'en 2008, on a élargi le système Erasmus aux échanges de jeunes officiers. Oui, non, c'était...
Moi, je pense que quelque part, Erasmus a été victime de son succès. Enfin, pas victime, le contraire. Bénéficiaire de son succès. Parce qu'il fallait s'adresser aux jeunes. Sous la pression, il y avait tellement de jeunes qui voulaient faire Erasmus qu'ils ont été obligés petit à petit de monter le nombre de bénéficiaires. Un des principaux problèmes du Brexit, un des trucs sur lesquels on a passé des heures et des heures au Parlement européen, c'était les échanges avec la Grande-Bretagne, puisque la Grande-Bretagne était le premier pays bénéficiaire des échanges, bénéficiaires, je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont bénéficiaires, mais qui accueillaient les jeunes. Et ça a été maintenu avec la Grande-Bretagne. Mais ce n'est pas la question, d'aller vers tel ou tel pays, c'est qu'il y a eu de plus en plus de jeunes qui ont demandé à bénéficier du système.
Parce que l'avantage de l'Erasmus, c'est qu'on voit le bénéfice très vite.
Ouais.
C'est généralement un semestre, souvent pour aller faire son travail de fin d'études, et tout le monde, que ce soit les enseignants, les jeunes ou leurs parents, tout le monde voit qu'au bout de 6 mois, les jeunes sont transformés.
Mais il n'y a même pas besoin de 6 mois.
C'est extraordinaire.
Moi, j'ai beaucoup travaillé, parce que j'aime beaucoup travailler avec les lycées professionnels. Les lycées professionnels, ils vont 15 jours en Erasmus, un mois, mais rarement plus. Et alors c'était au moment du 20e anniversaire d'Erasmus. J'étais invitée à un événement qui avait été organisé dans un lycée professionnel, je crois que c'était en Seine-Saint-Denis, si ma mémoire est bonne. Et ils avaient invité les 20 générations, alors pas tout à fait 20, parce que les lycées professionnels n'ont pas été bénéficiaires tout à fait au début, mais les X années avec. Et les gamins, ils racontaient qu'est-ce que leur avait apporté Erasmus, 10 ans, 12 ans après, alors qu'ils avaient juste été, 15 jours en Irlande. Pour l'essentiel, ils avaient des échanges, je crois, avec un établissement en Irlande, etc. Et les gamins, ils disaient notamment, ça m'a fait découvrir l'intérêt de parler une langue étrangère. L'expérience, j'ai trouvé ça fabuleux, quoi. Y compris pour ces gamins qui étaient en hôtellerie pour l'essentiel. Ça nous paraît facile de dire, dans l'hôtellerie, c'est évident, mais pour ces gamins, c'était pas évident. Alors que 15 jours, 15 jours en Irlande. Et...
linguistique et humain.
Tous les bébés aussi, parce que là, quand vous parlez des 2 semaines, mais pour échange universitaire, c'est 6 mois. Ça fait qu'il y en a beaucoup aussi, des couples qui sont formés. Et derrière, je connais beaucoup à Lyon qui
je n'ai pas des chiffres, je suis désolé, on pourrait les retrouver. Mais c'est certainement considérable.
C'est là-dessus. C'est sur les échanges Erasmus et les rencontres.
Oui, oui, oui.
Parce que moi, de mon expérience, j'ai fait des études de droit. Le nombre d'étudiants Erasmus, je pense que c'était. Mon frère a fait l'étude de langue,
Il y a peut-être des secteurs où ça a été plus facile que d'autres.
Non, c'est des questions de génération.
Le droit est plus compliqué parce que finalement...
Non, mon frère, c'est il y a 30 ans.
Le droit est différent d'État à État. Tandis que quand vous concevez une formation d'ingénieur, vous trouvez les équivalents partout.
Oui, mais en même temps, le fait que ce soit différent d'un État à l'autre, c'est aussi très intéressant pour la carrière des juristes. Parce qu'on vit quand même en Europe et il faut qu'ils le sachent.
Ils font du droit comparé, du droit des affaires, du droit international.
Alors, Erasmus.
Non, ça dépend ce qu'on fait.
Erasmus, ça date de quand?
C'est une vingtaine d'années.
Oui, 20 à 30 ans.
Oui.
Il y a eu un film il y a 20 ans qui s'appelait L'Auberge espagnole.
L'Auberge espagnole.
Il y a 2001, donc ça ne peut pas durer.
Ah non, c'était avant déjà.
C'était avant déjà.
Oui, largement, oui.
Donc le film, c'était
Clapiche. L'ampleur, c'est il y a 10 ans.
Oui, ça a commencé tout petit.
Ça a commencé tout petit. Il y a même eu un moment, alors j'étais déjà députée européenne, donc ça devait être il y a 15 ans, c'était menacé. Il y a eu un moment où on a parlé de supprimer Erasmus. Et ça a été un tollé tel que non seulement ils n'ont pas supprimé, mais ils ont donné des crédits supplémentaires.
Tout à fait. Bien.
C'est une merveille, Erasmus.
Messieurs, dames.
Merci pour votre attention.
Merci pour vos questions.